Bonjour. Voilà, je probablement comme vous, et je l'ai déjà dit à un certain nombre de personnes, mais tous les matins, je lis la parole de Dieu et j'ai toujours le même objectif de lire un chapitre par jour. Un chapitre de la parole de Dieu, commencer par la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse et je reviens. C'est un rythme que j'avais déjà à l'époque où j'étais marié et j'ai poursuivi ce rythme avec la possibilité à chaque fois d'avoir un objectif. Et là, mon objectif cette année, c'est de pouvoir souligner à chaque fois que le nom de l'Éternel est apparu. Et ça devient très intéressant, on voit le texte de manière différente. Et à l'heure actuelle, donc, je suis... Alors là, je viens de passer le livre de Ruth, je suis dans Samuel, mais je vais revenir au livre de Ruth. La loi de Dieu, les lois de Dieu pour le bonheur de l'être humain et le déroulement du plan divin. Les lois, j'aime pas. Vous peut-être, mais pas moi. Parce que les lois sont contraignantes, les lois nous obligent, et puis si on ne les suit pas, tu payes. Enfin, je paye. Et c'est vrai que quand on a le permis de conduire, on n'aime pas trop perdre des points. Et pour certains, on n'aime pas trop arriver vers deux points qui restent ou un point qui reste. N'est-ce pas? Ça devient très dangereux. Les lois, c'est contraignant. C'est contraignant. Mais on va se rendre compte au travers de l'histoire de Ruth qu'on connaît bien que les lois ont été utiles. Que les lois qui ont été proposées, les lois de Dieu qui ont été proposées, étaient des lois qui étaient favorables pour cette femme qui a un historique un peu particulier. Alors au début de cette prédication, je vais d'abord donner trois exemples particuliers que j'ai vus ces derniers temps. Et puis après, on verra donc l'histoire de cette femme. Première histoire. Le matin, je regarde de temps en temps, en prenant mon petit déjeuner, je regarde sur YouTube et on voit là en particulier des procès. Et dans ces procès, il y a des choses qui sont très édifiantes, si on peut le dire comme ça, ou très étonnantes. La dernière fois, donc, c'est cela qui m'avait interpellé. J'ai vu donc l'histoire d'un jeune dealer. Vous savez ce que c'est qu'un dealer, hein, celui qui vend de la poudre blanche ou d'autres couleurs, je n'en sais rien. Mais un jeune dealer mineur qui a été arrêté par la police. Il passe donc en jugement. Le juge lui explique qu'il avait enfreint un certain nombre de lois françaises. Et le jeune a une réplique tout à fait étonnante et va lui dire: Monsieur le juge, je n'enfreins aucune loi, je fais juste du commerce. C'est impressionnant. Je fais juste du commerce. Je suis quand même libre de faire ce que je veux, non? Deuxième chose, c'est une question qui me revient assez fréquemment dans mon ministère. Des personnes qui me disent à quoi servent les 10 commandements? Le décalogue pour le chrétien, puisque nous sommes sous la grâce et plus sous la loi. La loi mosaïque, c'est l'ancienne alliance. C'est la loi qui tue, parce qu'elle ne peut pas être suivie à la lettre. Nous sommes sous la nouvelle alliance en Christ. Et là, avec Christ, il y a le pardon, il y a la liberté et à la clé, la vie éternelle. Et ça, nous le savons très bien. Et pourquoi donc s'embarrasser du décalogue, des 10 commandements? Voire de la Torah, ces 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, puisqu'elle ne nous correspondrait plus, d'après certains. Troisième chose, nous sommes des gens du 21e siècle, et nous avons une soif de reconnaissance. On aime bien être reconnu. On apprécie. On a besoin de cela. Moi, j'aime en particulier la réaction des tout jeunes, de mes petits-enfants en particulier. Un de mes petits-enfants qui a vu que j'avais une page Facebook et sa première réaction, c'était de dire « Alors papy, tu as combien de likes ?» Oui, c'est vrai. Peut-être qu'avec mes 40 likes, je les fais rigoler. Mais c'est la recherche qu'on a en particulier. On a une soif impressionnante d'être reconnu. On a une soif aussi impressionnante du tout de suite, de gagner beaucoup sans sacrifier son bien-être, de changer de relation chaque fois qu'on en a envie. Moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est de voir les relations, et notamment j'étais en discussion, en réunion avec deux personnes jeudi dernier, et le gars me disait « Vous avez combien d'enfants, combien de petits-enfants, etc. » Et quand j'ai parlé de mes enfants, il m'a dit « Vous en avez combien qui sont divorcés ?» La question m'a vraiment surpris sur le coup, mais c'est une réalité aussi, parce qu'aujourd'hui on change assez facilement. On échange. Et je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et je dis, bah écoutez, pour le moment, il n'y a pas de problème. Je me sentais presque bizarre. C'est étonnant hein, qu'on soit dans cette situation. Ce n'est pas une question qu'on se pose en général. Des gens qui... Des jeunes en particulier, mais nous sommes des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui veulent être millionnaires, milliardaires. On en vit, on regarde au travers des médias, et on en vit un certain nombre de personnes qui, comme des footballeurs ou autres, gagnent ce que nous gagnons en une semaine, ce que nous ne gagnerons pas nous-mêmes dans notre propre vie. Je voyais encore un reportage où on parlait de ce gars qui est, je ne sais plus dans quel... dans quel pays là, mais où il montrait toutes ces grosses voitures Maserati et tout ce qu'on veut qui coûtent énormément cher, et je me dis, il a plus de bagnoles qu'il y a de jours dans le mois. Et qu'est-ce qu'il fait de toutes ces bagnoles? Mais quand vous discutez avec les jeunes, ils vont jouer au foot, ils tapent dans le ballon et « Ah, moi, je veux être comme celui-ci, comme celui-là » et effectivement, gagner plein d'argent, être reconnu, valorisé, etc., etc. Ils ont l'impression que ces grands riches sont apparemment libres et que ces riches peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On a posé un jour la question à Bill Gates, qui était le responsable de Microsoft. On lui a posé la question, on lui a dit, mais écoutez, vous avez autant d'argent que vous voulez et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à n'importe quel moment. À quoi vous aspirez aujourd'hui? Et sa réponse était très courte et très claire. Un peu plus. Impressionnant. Mais on va revenir à notre texte. La Bible va nous montrer une fois de plus que Dieu va travailler avec des personnes qui ne cherchaient ni la gloire, ni la richesse, ni l'argent, ni la liberté totale, mais ils avaient accepté de vivre pour Dieu, la plupart du temps incognito, et sont devenus des personnages bien connus. Alors c'est vrai que parmi les personnages que je vais citer, il y en a, vous allez me dire, il y en a qui étaient riches au départ, alors on va penser à Abraham. Ah bah oui, il avait pas mal de richesses, ça c'est vrai. Mais bon, au service de Dieu, il ne s'était pas rendu compte que tout d'un coup, il serait le père de toutes les nations, il serait, enfin, etc. Il n'avait pas ça, ce n'était pas son objectif. On peut parler de Moïse, surtout quand il a été, quand il a dû partir d'Égypte. Là, il s'est considéré comme un homme qui était cuit, et c'est Dieu qui va aller le chercher là-bas. Et tout d'un coup, lui dire, non, c'est toi que je veux. Et puis, on peut penser aussi au roi David, ce petit gars qu'on avait oublié dans la famille. Ah oui, c'est vrai, il y a David, ah ben, tu sais, il est toujours dans les champs. Et Dieu l'a transformé. On peut penser à la juge Déborah. On peut penser à Marie, la mère de Jésus. On peut penser à Jean-Baptiste et la parole de Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va parler d'une païenne. D'une païenne qui vivait dans le plus grand secret et qui est devenue, si je peux le dire comme ça, une grande star à son insu grâce aux lois de Dieu qu'elle a su mettre en pratique. Alors, je vais vous lire un autre texte que celui qui nous a été lu ce matin, second, donc, dans Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 6. Donc moi, je ne mets pas le texte, c'est généralement pour aider les personnes à chercher dans leur Bible, qu'ils n'ont pas emmené. Ou dans leur smartphone. Alors Matthieu 1, versets 1 à 6. C'est une généalogie, on le sait. Et vous adorez les généalogies. Voilà. J'ai vu que faut pas aller si vite, je pense, hein, là, que tu es plus vite que moi, là. Hein. Voilà, c'est encore un petit peu au-dessus. Alors, moi, j'avais une spécialiste à mes côtés, notamment Jacqueline, ma belle-mère. Alors, la généalogie, elle, elle connaissait tout ça par cœur. Quand un jour, une de mes filles a dit qu'elle allait se marier avec un Klopfenstein, elle a dit « Ah oui, je connais sa mère, sa grand-mère, qui est la tante d'eux, enfin, etc. etc. » Jusqu'au jour où je suis arrivé auprès d'elle et je lui ai dit « Écoute, tu connais pas monsieur un tel ?» Et tout d'un coup, elle a réfléchi. Elle a dit « Tu sais, François, je sais plus. » C'était juste 2 mois avant son décès. Et là, elle avait oublié. Mais on va lire Matthieu 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Pérets et Tserach de Tamar, Pérets eut Hetsrom, Hetsrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Franchement, si vous n'êtes pas fier de votre généalogie, parce que vous avez des ancêtres qui étaient peut-être pas tout à fait recommandables, ça peut arriver. Quand on regarde la généalogie de Jésus, elle n'est pas triste non plus. Hein. Franchement, dans, et je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, hein, dans le peu qu'on a lu là, ce matin, on va se rendre compte que, franchement, la vie de ces gens-là, elle n'est pas drôle. Et même des gens connus, quand on voit David, comment il a eu Salomon, franchement, moi, je le rayerais de la carte. Hein. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi Salomon, le fils de cette femme que David a eue avec une tuerie, des mensonges, des enfants, etc. Vous connaissez l'affaire. Comment Dieu a-t-il choisi Salomon? Enfin, je ne comprends pas. Moi, j'aurais été à sa place. Non, je ne dis rien. Je ne dis rien. Alors, quand on va voir les autres personnages, c'est pas plus drôle non plus. Tamar. C'est pas drôle. Et puis, bon, j'en passe. Je reviendrai un peu tout à l'heure, mais j'en passe. Et Ruth. Ruth qui va débarquer, et c'est d'elle dont on va parler, qui a quand même une spécificité. Ruth n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Et la voilà intégrée à l'intérieur de cette généalogie. Incroyable le plan de Dieu. Incroyable. Je devais lire donc Ruth 1, mais on l'a lu tout à l'heure, et merci beaucoup pour la lecture. On va aller un petit peu plus loin. On va essayer de dresser l'histoire de Ruth et ses déboires. On est donc dans la période des juges. Et dans la période des juges, il y a une phrase qui va revenir assez fréquemment, où il est dit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et cette phrase, elle est répétée moult fois, et on sait que dans le livre des juges, c'était la pagaille. Dieu n'était plus vraiment à la place qu'il aurait dû avoir, il n'était plus le point de repère pour le peuple. La future famille de Ruth habite à Bethléem, et tout le monde connaît la signification de Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. On dirait presque c'est une blague, parce qu'elle est dans la maison du pain. Et finalement, elle va se rendre compte qu'on est dans une situation de difficulté, sécheresse et tout ça, et il n'y a plus rien à manger. Et donc, à cette première occasion de difficulté, il y a un manque de foi qui va s'installer chez Naomi et Elimelech, son mari. Et finalement, ils vont regarder tous les deux vers l'extérieur et ils vont se rendre compte que là-bas, de l'autre côté, en Moab, dans le pays ennemi, ça va quand même mieux sans Dieu. Là-bas, l'herbe est verte. On sait que l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Mais là, c'est pire encore. C'est pas le champ du voisin, c'est le champ de l'ennemi. Comment ont-ils pu faire pour aller là-bas? On était à Bethléem, le berceau des rois, pour aller chez l'ennemi, comme nous, quand le doute ou les problèmes nous envahissent, on veut retourner dans le monde. Et vous vous souvenez de la même manière que le peuple hébreu, quand ils étaient dans le désert, ils ont dit, il vaut mieux retourner en Égypte. C'était bien mieux, l'esclavage était mieux que le désert. Là-bas, il y avait des oignons, etc. Je ne sais pas ce que je mange à midi, mais c'est peut-être pas des oignons. On est attiré par ce qui se passe dans le monde parce qu'on a l'impression que ça s'y passe mieux et quelquefois on y retourne. La deuxième tentation, la deuxième infraction à la loi de Dieu, après le péché du retour dans le monde du papa, dans le monde, pardon, les deux fils se marient avec des païennes. Je pense qu'ils ont oublié une autre règle qui est dans l'Ancien Testament, qu'on ne devait pas se marier avec une femme spirituellement étrangère. Comme quoi, dans nos vies, c'est la même chose, un péché en entraîne un autre. Et ça, on le sait. L'histoire de David nous le prouve. 10 ans sur place, et on a 3 morts. Les 3 hommes. Les 2 jeunes maris, plus le beau-père de Ruth. La plupart du temps, ce qu'on nous dit, c'est que ces morts sont la conséquence de leur choix d'enfreindre la parole de Dieu. Et ça, c'est fort probable. Et Naomi, elle va nous laisser entrevoir dans ce scénario. Elle choisit à un certain moment de repartir à Bethléem avec la honte. Mais aussi, elle va devoir rejeter ses belles-filles. Et son objectif, c'est de recommencer, de reprendre sur une page blanche, de retourner donc à Bethléem et de se refaire une vie. Mais quand elle va arriver, elle va se faire appeler Mara. Et Mara, ça veut dire quoi? Mara veut dire quoi? Ça veut dire amère. C'est amère. Elle était amère. Amère par rapport à Dieu en particulier, amère par rapport à sa situation. Elle est maintenant convaincue qu'il vaut mieux être avec Dieu dans la souffrance que sans Dieu dans une apparente liberté et une apparente facilité. Mais Ruth, la païenne, elle était attachée au départ à des dieux étrangers, à des statues de pierre ou de bois sans vie, des rituels avilissants. Elle va choisir de tout perdre. Sa famille, son héritage, sa patrie, et elle va comprendre et accepter l'appel de Dieu à se repentir, à le servir à son niveau. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire pour elle. Elle avait une famille, elle avait un pays, elle avait une identité, elle avait des rites qu'elle connaissait, qui faisaient partie de sa vie. Là, maintenant, elle a décidé de changer de vie. Et elle va dire à Naomi des mots qui sont très très forts. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Nous, on ne se rend peut-être pas compte de ce que ça veut dire. Changer de pays, etc. Mais ce qu'on va voir au travers de cette femme, c'est que cette femme, si je peux utiliser, si vous me permettez d'utiliser le mot, cette femme avait envie de changer de vie parce qu'elle croyait que le Dieu d'Israël était le Dieu vivant auquel il fallait croire, avec lequel il fallait marcher. On appellerait cela aujourd'hui une véritable conversion claire, nette et précise. Elle a changé de vie. Elle a changé de vie. Mais alors, il faut quand même se dire que devant elle, c'est le parfait inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après? Elle a tout plaqué, hein. Faut pas l'oublier. Et là, il n'y a pas la retraite de Moab qui viendra la suivre, enfin, etc. Hein. Pas comme aujourd'hui quand on change de pays, n'est-ce pas? Elle a tout plaqué, elle ne sait pas ce qu'il y a devant. Aujourd'hui, cette femme, on l'appellerait, si vous me permettez aussi, une migrante. Elle est migrante. Elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et je pense que dans le choix qu'elle a fait, elle a des risques maintenant dans les deux camps. Dans le premier camp, Moab, elle a le risque d'une chose, c'est qu'on lui dise qu'elle a retourné sa veste et qu'on va lui couper la tête. Et là où elle va arriver, c'est qu'on pourrait lui dire, dès qu'elle va arriver, tu prends l'avion et tu retournes là-bas. Nous, on ne veut pas te voir. On va s'approcher de la deuxième étape de la vie de cette migrante de Ruth. Quand le peuple hébreu a quitté l'esclavage en Égypte, il allait de l'avant. Et en allant de l'avant, ils avaient quand même des choses assez formidables imprimées à l'intérieur de leur tête, dans leur pensée. Dieu leur avait fait des promesses. Et la promesse, c'était la promesse d'un pays paradisiaque, là où coule le lait et le miel, et ils seraient seuls dans ce fameux pays, que Dieu les accompagnerait pendant le voyage et qu'ils seraient, et quand ils seraient arrivés, et ils ne seraient plus esclaves, mais ils seraient libres. Trois choses importantes pour ce peuple hébreu qui pouvaient les motiver à dire, nous on va là-bas, mais on sait pourquoi et on sait ce qui nous attend. Alors c'est sûr que, on est d'accord, c'était pas un voyage du club même, hein, pour le peuple hébreu. Quand ils sont allés là-bas, ça leur a quand même coûté, et puis voilà, 2 millions de personnes, un peu plus, avec des enfants, avec et traverser un désert, c'était pas drôle. Déjà dans les trois premiers jours de marche, sans boire et sans manger, les questions ont commencé à fuser. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Que fait-il? Les promesses, est-ce qu'elles sont valables? Que devenait leur foi? Et nous, quand on s'est converti, ou quand quelqu'un se convertit, c'est la même question qui se pose. Moi, je vois des gens aussi, après leur conversion, qui se posent plein de questions, parce que tout d'un coup, tout devient flou. Ils changent de vie, ils changent de manière de voir les choses, etc. Et tout d'un coup, c'est un peu, ils étouffent, quoi. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Mais chez Ruth, c'est encore pire, parce qu'elle est migrante, convertie à Dieu, entre guillemets. Et elle marche avec une belle-mère qui va en marche arrière, si je peux dire la chose de cette manière. Une femme qui courbe le dos de honte. Naomi a choisi de retourner au pays, le pays de Dieu, mais le texte dit que Naomi va se faire donc appeler Mara, comme je le mentionnais tout à l'heure. Naomi n'est pas le modèle de foi pour la jeune femme convertie qu'est Ruth. Je prie toujours pour qu'il y ait des conversions. Et quand je prie pour des conversions, je prie aussi pour moi. Est-ce que je suis un modèle pour des jeunes chrétiens? Est-ce que ma manière de penser, ma manière de vivre, est-ce qu'elle plaît au Seigneur? Et est-ce que tout d'un coup, elle va encourager le jeune chrétien à aller de l'avant avec le Seigneur? On parlait de conduite tout à l'heure, hein. Si vous me permettez une petite parenthèse, je me suis fait doubler par une camionnette, et sur cette camionnette, dès qu'elle est passée devant moi, de manière pas tout à fait réglo, je dirais ça comme ça, quand j'ai vu ce qui était écrit derrière la camionnette, je me suis dit, waouh, heureusement que je suis chrétien. Jésus t'aime. Oui, toi. C'était marqué en tout gros derrière la camionnette. Et derrière, il y avait un petit poisson. Et j'étais en train de me dire, je pense qu'à ce moment de conduite qu'il a eu, le poisson, il s'est mis à rougir. Mais je pense aussi que je peux vous dire ce matin que dans ma réaction à moi, c'est moi qui ai dû aussi rougir. je ne peux pas dire que j'ai béni ce gars qui m'a fait cette queue de poisson, etc., etc. Est-ce que je suis un modèle pour les autres, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour des gens que je côtoie nouvellement chrétiens? Est-ce que finalement, je ne ressemble pas quelquefois à Naomi? Est-ce que ma vie ne ressemble pas à celle de Naomi? Ou finalement, je prends des décisions qui font rougir le Seigneur? Ou le Seigneur pourrait dire, oh, j'en ai marre de toi, je te laisse tomber. Comme il a dit à quelques fois aussi à ce peuple hébreu qui ne voulait rien savoir avec lui dans cette marche dans le désert, malgré toutes les promesses qu'il avait faites. Heureusement, dans la grâce de Dieu, Dieu nous utilise quand même comme il a utilisé Naomi. Quelle grâce quand même de la part de Dieu. Quelle grâce. Je disais tout à l'heure, et je vais y revenir, plutôt que de chercher à plaire au Seigneur, j'aime à ce qu'on me regarde, à ce qu'on m'applaudisse, à ce qu'on me like. N'est-ce pas? Je vais vous citer une petite parole d'un chant de Balavoine. Je ne fais pas de publicité pour Balavoine parce qu'il y a certains de ses chants qui ne sont pas très drôles. Une de ses chansons dit « Je ne suis pas un héros, n'écoutez pas ce que disent les journaux ». Vous connaissez cette chanson? Je ne vais pas vous la chanter, sinon vous allez la fredonner jusqu'à ce soir. Mais moi, quand j'écoutais la radio dans la voiture à cette époque-là, j'ai transformé la chanson pour qu'elle puisse me convenir. Et vous savez ce que je chantais? Je ne suis pas un zéro. Oui, monsieur le professeur. Mais Christ est, et c'est lui qui nous donne de la valeur. Oui, vous avez l'impression quelquefois que nous sommes, que vous êtes, que je suis un zéro, que je ne vaux pas grand-chose. Et j'aime toujours cette petite image, qui n'est qu'une image, mais qui m'en dit beaucoup. Je me tourne vers le professeur en disant, zéro c'est zéro, ça vaut rien, n'est-ce pas? Et si je mets un 1 devant, ça fait 10. Là, ça a déjà une valeur. Et si le 1, c'est Christ, ça a toute ma valeur. Mais quand je regarde une église et que je vois plein de zéros, et puis que Jésus est vraiment devant, le 0 devient un 10, qui devient un 100, devient un 1000, devient un million, devient un milliard. Et là, tout d'un coup, je réalise le plan de Dieu. Alors si le 1 il est derrière, ça ne fera que 1. C'est 0, 1. Et 0, 1, ça fait 1. N'est-ce pas? Quelle grâce de Dieu! Une grâce inattendue. Et Dieu, au travers de la vie de Ruth, va faire aussi la même chose. Quand Dieu dirige les choses, les vies changent. Les objectifs changent. Et cette femme, Ruth, va vraiment être régénérée, transformée. Même si elle va rentrer comme étrangère dans un pays ennemi, on va la voir aussi marcher avec Dieu et voir des choses extraordinaires qui vont se produire dans sa vie. Elle n'a aucune certitude sur son avenir, elle n'a pas de but clair, elle a une seule chose, elle n'est rien, mais elle est avec Dieu, elle est au service de sa belle-mère et au service de Dieu. Chose extraordinaire. Alors on va aller un peu plus loin et on va voir que la grâce de Dieu va opérer au fur et à mesure. J'apprécie une chose, c'est que Naomi ne s'est pas enferrée dans sa situation en Moab et qu'elle a choisi le chemin de la repentance, même si elle avait de l'amertume qui traînait encore envers Dieu et qu'elle avait peur du jugement des autres. il est quelquefois dur de constater que nous aussi, il nous faut beaucoup de temps pour demander pardon à Dieu, pour prendre la possibilité de dire « il faut que je change de direction dans ma vie ». Naomi a choisi la bonne part et elle a choisi de faire les choses différemment, donc de demander pardon. Et comme par hasard, avec un grand D, elle va rentrer juste à quel moment ? À Bethléem ? À quel moment de l'année elle va arriver ? Elle arrive juste à la saison des récoltes. Comme par hasard, avec un grand D. Humainement, moi je pense que ce n'était pas une bonne idée, Naomi. Il aurait mieux valu que tu restes chez toi, en Moab, que tu récupères toute la moisson que tu as préparée, et puis que tu emmènes les céréales avec toi. Ça aurait quand même été un peu plus logique. Ah, la pauvre Naomi, elle avait... Non. Elle a fait une très très bonne chose. Elle est revenue au moment des moissons. Elle n'avait rien à manger avec elle. Mais la chose extraordinaire va se produire, les lois de Dieu vont se mettre en marche. Naomi, je l'explique tout à l'heure, Néhémie doit se faire accepter dans la plus belle partie du monde, dans la plus belle partie du pays d'Israël, c'est-à-dire en Juda, et en particulier à Bethléem. Bethléem, Juda, c'est la contrée des rois, et c'est justement de là où va sortir le Messie. On peut en conclure que quand on a fait de mauvais choix, à un certain moment, ce qu'il est bon, c'est de pouvoir se dire « je m'arrête, je demande pardon, et Dieu me précède quand même dans ce pardon ». Moi j'ai un GPS, des fois j'ai envie de lui tordre le cou là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes sur l'autoroute et tout d'un coup vous avez une voix féminine, sympathique qui vous dit « faites demi-tour, faites demi-tour ». Alors moi je la fais taire maintenant. Mais c'est vrai que dans nos vies, j'ai l'impression que Dieu c'est comme le GPS. Qui nous dit fais demi-tour, et nous on dit non, mais on va y arriver, il y a bien une route qui va tourner à droite quelque part. Fais demi-tour. Alors on va voir trois lois qui vont être utilisées pour changer l'avenir de Ruth et de Naomi. La première loi, c'est la loi du glanage. La loi enjoignait au propriétaire de ne pas ramasser ce qui restait dans son champ, dans sa vigne, et de ne pas retourner chercher une gerbe oubliée ou des fruits tombés. Lévitique 19, 23, Deutéronome 24, etc. Tout cela devait être abandonné à l'indigent, à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. La loi va donc permettre à Ruth, la loi de Dieu, elle va permettre donc à Ruth, veuve, et étrangère, à aller glaner dans les champs dès qu'elle arrive sur le territoire. Alors c'est vrai que nous aussi, même si on n'a pas fait d'école biblique, si on n'a pas des grandes connaissances bibliques, etc., Dieu nous permet de glaner dans sa parole pour pouvoir être nourri, quel que soit notre niveau culturel, notre niveau social, voire notre érudition. Deuxième loi, c'est la loi sur l'accueil de l'étranger en Israël. Les étrangers étaient accueillis différemment, mais la loi de Dieu générale était de faire bon accueil à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Le peuple de Dieu avait donc des règles bien établies du point de vue social. Quand on voit ces catégories de personnes, on se dit que la majeure partie de la population en difficulté sociale était couverte. Par contre, les Israélites en difficulté financière, qu'est-ce qu'il advenait d'eux ? Les Israélites qui étaient en conditions financières difficiles, il arrivait quoi ? Ils allaient à la CAF ?
Ils attendaient le jubilé.
Exactement. Alors, mais entre-temps, ce qui se passait pour la plupart d'entre eux, c'est qu'ils se mettaient dans l'esclavage pour rembourser leurs dettes. Et Dieu merci, il y avait encore une loi, c'est que tous les 7 ans, on mettait les compteurs à zéro. Je trouve ça génial.
49.
Mais tous les 7 ans déjà, il y a déjà une remise à niveau. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Moi, j'aimerais bien aller voir la banque. Non, j'ai un emprunt chez vous. Hop, vous annulez. Essayez toujours. Hein. Essayez toujours. Mais là, c'est assez extraordinaire. Dieu avait donné cette loi et cette possibilité de pouvoir dire, elle va revenir là. Enfin, non, pardon. Elle a donné la possibilité, cette loi a donné la possibilité donc à Ruth de pouvoir être reconnue comme étrangère, comme veuve, et de pouvoir être soutenue. Et ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et notamment, on verra tout à l'heure que quand elle est arrivée, elle avait le droit donc d'aller glaner. Et quand elle va glaner, elle va tomber, comme par hasard, sur un terrain connu, pas par elle. Et sa belle-mère ne savait pas où elle était. Troisième règle, c'est la loi du mariage avec le plus proche parent, qui s'appelle la loi du Lévira. La loi du Lévira, Deutéronome 25. Une veuve devait se marier avec un de ses beaux-frères. C'était la règle. D'accord ? La règle va très loin, puisque des juifs, des sadducéens, sont venus voir Jésus aussi à un certain moment, en disant, dans Matthieu 22, ils sont venus voir Jésus en lui disant « Écoute Jésus, on a une question par rapport à la résurrection. » Et notamment, il y avait une femme, et son mari est décédé, elle s'est mariée avec son beau-frère, le beau-frère est décédé, elle s'est mariée avec l'autre beau-frère, etc. L'autre est encore décédé, et elle s'est mariée comme ça 7 fois. Et le 7e est aussi décédé. Quand elle sera au ciel, elle sera la femme de qui? Intéressant, non? Intéressant. Mais on va voir que pour Ruth, les choses vont se passer différemment. Elle va glaner dans un champ, elle ne sait pas qui c'est, elle ne connaît personne. Et comme par hasard, ce champ appartenait à un proche parent de son défunt mari. Boaz, ce fameux propriétaire, lui, il a regardé cette femme et il a vu le courage de cette femme. Cette femme étrangère, cette femme veuve, qui avait pour objectif de servir sa belle-mère. Boaz, qui lui, je ne sais pas s'il était veuf ou célibataire, mais n'était pas marié, il va chercher à la marier, mais il va regarder aussi la loi de Dieu, et la loi de Dieu dit, tu ne peux pas, Boaz, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus proche parent que toi. Il faut d'abord que tu règles la question avec lui. Pardon. Alors, il y a ce plus proche parent, il y a une histoire de terrain, je vous fais grâce de tout cela. Ils vont discuter ensemble et le plus proche parent dit « Moi, je ne veux pas de cette situation, je m'en lave les mains. Si tu veux, madame le terrain, débrouille-toi. » Et là, voilà une autre loi qui intervient, qui est la loi du déchaussé. Vous savez ce que c'est que la loi du déchaussé ? C'est que si quelqu'un n'acceptait pas la proposition qu'on lui faisait, dans ce cadre-là particulier, il devait donner une chaussure. D'accord ? Il n'y avait pas de notaire, mais le notaire fonctionnait comme ça. Je te donne ma chaussure. Bon, je ne sais pas si on ferait comme ça aujourd'hui. Mais finalement, Boaz a le droit de se marier. Et voilà quelque chose d'extraordinaire. Quand Ruth va discuter avec sa belle-mère. Sa belle-mère lui avait dit à ce moment-là, même si moi, je pouvais avoir un fils. Donc il faut déjà que je me marie, il faut que je puisse être enceinte, ce qui n'est pas la plus... Et puis toi, il faut que tu attendes au moins un certain nombre d'années avant que mon fils puisse te donner un enfant, et est-ce que toi, enfin, etc., etc. Horloge biologique, vous connaissez cette affaire. Mais voilà que c'est toutes les lois de Dieu qui sont contraignantes au départ, qui vont permettre à Ruth de pouvoir faire naître, comme par hasard, un fils. Et ce fils sera lui-même un ascendant de David et donc un ascendant de Jésus. Toutes ces lois qui nous paraissent contraignantes au début n'ont fait que permettre à Ruth et aussi à Naomi qui a dû se réjouir, elle qui n'était qu'un zéro, de devenir une personne intégrée à l'intérieur de la généalogie de Jésus. C'est extraordinaire. Elle a été adoptée comme membre du peuple juif par sa conversion, entre guillemets, et donc elle a pu se marier. Elle est tombée enceinte, enfin, elle est devenue grand-mère du roi David et elle fut l'ancêtre de Jésus. Ruth, une femme du mauvais pays, païenne de surcroît, veuve, va lâcher prise, comme on dit aujourd'hui, complètement, de sa culture, de ses croyances, de sa famille d'origine, de ses amis, et elle va se jeter dans les bras du Dieu vivant. Elle sort de sa liberté païenne pour se soumettre à la loi de Dieu de l'Ancien Testament. C'est une loi qui va la libérer et qui va lui donner ainsi une identité, une nouvelle famille et une place plus honorable dans le peuple de Dieu, puisqu'elle est grand-mère du premier roi choisi par Dieu. Je dis bien le premier roi choisi par Dieu, on pourrait discuter de Saül, mais le temps ne nous permet pas. Saül n'était pas de la bonne tribu, Saül a été donné parce que le peuple a insisté, tu l'as voulu, tu l'auras, et on connaît les catastrophes qui sont venues après. Qui est juif parmi nous, d'origine? Non, vous avez le droit de lever la main, hein? En fait, nous sommes tous des Ruths. Nous sommes des Ruths. Nous sommes des païens d'origine. Nous n'avions aucune possibilité de pouvoir entrer dans le peuple de Dieu. Nous étions des zéros. Et comme Ruth, nous avons eu le désir de marcher avec Dieu et Dieu nous a transformés. Et Dieu a permis que nous soyons quelque part une identité. Pour des personnes qui viennent après nous, pour des personnes qui sont autour de nous. On souffre de reconnaissance, on envie des stars du foot qui gagnent des millions en jouant quelques matchs par saison, excusez-moi les quelques. On rêve de devenir influenceur dans son coin caché, dans sa chambre, avec des millions de vues, mais la plus belle vie est celle de l'être aimé par Dieu qui marche en sécurité dans un plan déjà préparé d'avance pour nous, afin que nous le pratiquions. Rappelons-nous ce chant. Un jour, on l'a chanté tout à l'heure, dans les parvis de Dieu, vaut mieux que mille ailleurs. Mais aussi, que le but de nos vies prévues par Dieu est bien meilleur que tout ce que nous pouvons rêver ou idéaliser. Soyons des Ruths soumis à la volonté et au commandement de Dieu pour notre plus grand bien à long terme. Mais aussi, ayons le courage d'être des Naomi qui reconnaissent un moment, je me suis planté, je reviens en arrière et je veux servir le Dieu vivant en demandant pardon. Amen. Seigneur, tu es notre tout et nous te remercions. Tu es venu nous chercher, tu es venu nous sortir de notre idolâtrie, tu es venu nous chercher de notre paganisme et tu nous as donné une vraie identité. Nous avions peur, Seigneur, de venir à toi parce qu'on avait peur des 10 commandements, on avait peur des lois de l'Ancien Testament, on avait peur des choses qui allaient nous empêcher de vivre cette pseudo-liberté qu'on avait en tant que païen. Mais tu nous montres, Seigneur, au travers de ta parole et de nos vies, que vivre avec toi, c'est vivre une vraie liberté, avec un objectif qui est bien plus favorable pour nous que l'objectif qu'on avait avant d'être avec toi. Seigneur, si aujourd'hui il nous est arrivé aussi d'être une Naomi, permets, Père, que nous ayons le courage de te demander pardon et ainsi tu nous montreras dans ta grâce comment tu vas œuvrer au travers de nous en faveur de ceux qui nous entourent. Amen.